Nous avons de la visite ce matin, le député provincial Stéphane Sarrazin, bonjour.
Hey, bonjour, bon matin tout le monde.
Ça va bien?
Ah, ça va super bien.
Ouais. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était avant le temps des fêtes, donc j'imagine que tu n'as pas arrêté depuis ce temps-là. On voyait énormément d'annonces d'ailleurs la semaine passée. On en a quand même beaucoup parlé. Là. D'ailleurs, c'était en lien avec cette annonce-là que Louis-Philippe avait fait son bloopers en partant Ozzy Osbourne au lieu du maire Brière. Mais quand même, revenir rapidement, Stéphane, là-dessus. Énormément d'annonces la semaine dernière dans la région. Là.
Oui, je pense que c'était vrai. Ben, c'est toujours, intéressant d'entendre des investissements s'en venir dans notre région. Puis on voit que on travaille bien, les municipalités, à faire sûr qu'on est prêts avec nos projets, puis quand on les présente à la province, que la province va regarder ces projets-là, puis va dire « Wow, je pense qu'eux autres sont prêts à bâtir. » Parce que, tu sais, c'est tout aligné avec bâtir plus de logements en Ontario. Oui. Donc, on voit que, dans le cas d'Alfred Plantagenet, ça complète tout leur réseau d'égouts. Donc, ils pourraient bâtir. Il y a des investisseurs de Toronto qui ont acheté des parcelles de 100 acres. Donc, on pourrait voir des maisons. Je sais que dans le coin de Limoges, on le voit déjà. Tu passes là d'un mois à l'autre, il y a déjà plus de maisons. Puis,
Clarence Rockland aussi, et Russell. Trois endroits, le canton de Russell, Limoges, puis Clarence Rockland, pour vrai.
Exactement.
Si tu passes six mois sans passer là, tu vas faire un saut. Là.
Absolument. Puis même, moi, je demeure à Wendover maintenant.
Oui.
Puis c'est la même chose. Là, tu passes d'une rue, puis qu'est-ce que tu vois, là, deux, trois salages. Puis tu te demandes hein, que toutes les gens qui achètent ça, ces maisons-là, parce qu'aujourd'hui, une maison, c'est pas grand-chose en bas de 600 000 $. Puis tu te dis, nos pauvres jeunes qui doivent ramasser de l'argent pour un down payment sur une maison de 600 000 $, c'est pas comme dans le temps, quand tu achetais une maison à 80 000 $.
Généralement, de ce que je comprends, c'est que souvent, ces maisons-là neuves sont souvent une deuxième maison sur laquelle tu as eu ta première maison, tu as de l'équité, puis bon... T'as pas nécessairement une hypothèque à 5 % là. Dans ce cas-ci, t'as eu quand même un certain down de maison. Ben oui, t'as absolument raison, mais en même temps, c'est probablement... Le prix de l'immobilier est aussi lié facilement aux erreurs du passé, là.
Exactement, c'est l'offre et la demande.
On a empêché la construction, on a rendu la construction difficile pendant tellement d'années que là, ça a venu nous remettre les fesses, là, ça c'est définitif. Mais je voyais passer, donc évidemment, investissement Alfred Plantagenet, investissement important à Clarence Rockland et dans la nation. Si je fais, c'est quasiment 20 millions.
Oui, absolument.
Si je mets tous ces investissements-là de la semaine dernière, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Mais je voyais passer aussi d'ailleurs, hier, un rapport de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et d'habitation, qui on enregistre quand même une bonne baisse en termes de construction, pas juste en Ontario, là, mais au travers, à l'échelle du pays au complet, c'est un problème qui est canadien, là, qui n'est pas juste ontarien, notamment en raison des coûts de construction qui sont encore trop élevés. Est-ce que ça t'inquiète ou ça vous inquiète parce que vous faites certains efforts, mais en même temps... Si ça suit pas...
Oui, absolument. Puis écoute, on l'a vu depuis le COVID, là, les matériaux, ça n'a juste plus d'allure. T'sais, moi, je me rappelle, j'ai déjà bâti le 20 ans passé, puis t'achetais une porte de maison, une porte de garage, n'importe quoi. C'est comme, ça l'a triplé, c'est 4 fois le prix, puis tu te dis, à un moment donné, ça va se stabiliser. T'sais, parce que c'est sûr que pendant le COVID, c'était à propos de la demande. Les gens venaient pas à bout de fournir les matériaux. Mais on se dit, à un moment donné, on va rattraper le dessus, mais il semble que ça prend du temps avant que les choses reviennent à la normale. Puis tu sais, aujourd'hui, de voir ça, des maisons à ce prix-là, tu te dis, waouh!
C'est pas des maisons, c'est pas des domaines, là.
Non!
C'est une petite maison bien normale, là.
C'est une maison unifamiliale toute cute, mais ça vaut pas ce prix-là.
Mais on s'entend, c'est ça, c'est pas un château.
Exactement, puis c'est pour ça que le gouvernement de l'Ontario a décidé d'aider les municipalités à avoir les infrastructures nécessaires pour faciliter, pour faire en sorte qu'on est capable de bâtir des logements, parce qu'on se dit plus de logements abordables, plus de logements, veut dire plus de logements qu'on va bâtir, plus qu'il va en avoir, puis plus ça va être abordable. Les gens, tu sais, présentement, pendant le COVID, on se battait pour les maisons.
Le principe, le vieux principe de l'offre et la demande.
Exactement. Donc, c'est ça, c'est des belles investissements. Je dois dire que depuis 2022, si je me rappelle bien, on faisait la mathématique avec mon équipe. 220 millions de dollars ont été versés aux municipalités pour les infrastructures, donc que ça soit chemin, eau, égout. Mm-hmm. Donc, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'investissement-là dans l'Est ontarien. qui est là, vraiment loin de Toronto. Donc, je suis vraiment content de travailler avec les municipalités, puis travailler aussi avec mes collègues députés, puis les collègues ministres pour leur vendre ces projets-là. Puis je suis vraiment fier de ce qui se passe.
Dans les prochaines minutes, je veux revenir avec toi, notamment, c'est dans les nouvelles ce matin, ces rumeurs pour Hydro-Hawkesbury et également le fameux TGV. On en a parlé quand même dans les dernières semaines. Je veux avoir ton son de cloche là-dessus. Never gonna give you up. C'est Rick Astley. On revient avec le député. Ça.
3, 2, 1, go! À Go FM!
Go FM!
Ça part bien le matin!
Ça part bien le matin!
À 7h43, on est mardi aujourd'hui, on est en direct avec le député Stéphane Sarrazin, toujours le 1-877-921-0921 par texto. Si jamais vous avez quoi que ce soit à ajouter à la conversation, des questions pour lui, ça me fait plaisir. Deux choses. La première étant ce TGV. C'est un projet qui est fédéral, je le sais, mais quand même, c'est certain que tu en as entendu parler. Oh, c'est God. Certain que tu as des questions toi aussi par rapport à ce tracé, donc ce TGV qui ferait, qui ferait Québec-Toronto avec un tracé qui, visiblement, va traverser fort probablement notre région. Non, ça a pas mal l'air d'être au nord de la 417. Donc, les régions là, de Vinklickill, les régions de Bourgette et tout ça, ou Saint-Bernardin aussi, qui a l'air d'être dans le tracé. Là. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Bien, premièrement, quand ils ont lancé le projet, je pense qu'ils ont donné une map qui était environ 50-60 km de large, puis ils ont dit le train devrait passer là. Puis ça, c'est Prescott Russell au complet, 50-60 km de large. Fait que là, tout le monde s'est mis à capoter, ça va passer dans le backyard chez nous. Mais là, écoute, on parle de la rivière Outaouais jusqu'à 417, là, le corridor, pratiquement.
Oui,
mais là,
c'est un gros corridor.
Faut arrêter, veut dire, de paniquer. Là. On va voir ce qui va se passer. Parce que, premièrement, on en parlait il y a 20 ans. On peut peut-être en parler encore dans 20 ans du projet de train à haute vitesse. Il peut rentrer un autre gouvernement là qui va juste canceller ça. Parce que, écoute, c'est combien de milliards de dollars? C'est bon pour Montréal, Toronto et Ottawa. Tu sais, moi, je prenais le train pour aller à Toronto via rail, puis tu regardes, 80 % du wagon, il est vide. Je comprends que si tu as un train à haute vitesse, mais tu payes déjà 100 quelques piastres pour aller à Toronto, comment que ça va être voyager avec le train à haute vitesse? Ça va être quasiment le prix de voler en avion d'Ottawa à Toronto. Là, donc, je suis pas sûr qu'on va voir ça. Je dis toujours à des gens qui viennent me voir, des cultivateurs qui ont 60 quelques années et plus, je me dis, peut-être que tu verras pas ça dans ta vie puis ni dans la mienne, tu sais. Puis je veux pas être négatif, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle des trains haute vitesse. On a de la misère à faire aller un LRT à 40 km/h à Ottawa, puis on veut avoir un train.
Non, mais c'est vrai, il y a raison. C'est un beau projet, mais est-ce qu'on va le voir arriver?
Ben, les mêmes commentaires sont sortis d'ailleurs de la bouche de Mario Zant, des présidents des Comtés-Unis de Prescott Russell, qui disait un peu la même chose que toi finalement. On pouvait respirer, OK, tout le monde. Oui, il y aura un peu plus d'informations dévoilées, mais c'est un projet qui était jasé il y a 40 ans, il y a 20 ans, puis peut-être dans 20 ans aussi, il n'y aura pas encore une pelletée de terre.
Puis tu sais, les gens m'appellent, disent, ça va passer en arrière de chez nous. Mais comment tu sais ça? Ils ont parlé d'un corridor de 50 km de large pour l'instant qu'ils analysent. Je veux dire, tout le monde est un peu panique. Hey, ça va passer en arrière de chez nous, puis il va falloir que je fasse un détour de 20 km pour aller à ma terre. Je suis d'accord que si ça se passe, ça va être problématique, mais attendons de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être proposé. Puis,
parce que comme c'est là,
si,
y a
ça va
rien.
Aller de l'avant.
Et non, y a,
là, on fait juste discuter.
T'as un corridor comme tu dis, finalement. Un corridor de 50 km, puis tu peux mettre la pine un peu partout là-dedans. Là.
Puis moi, je les ai rencontrés à Alto, à Roma. Écoute, ils peuvent à peu près pas répondre à aucune question. Puis j'ai pas été aux consultations publiques avec l'équipe parce que j'étais à Toronto, mais je savais à quoi que c'était parce que j'étais justement allé jaser à Toronto. Puis pour l'instant, ils savent rien ou s'ils savent quelque chose, ils veulent pas en parler. Puis on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe.
Sont à l'étude.
Les études, des fois, là, tu fais tellement d'études que par le temps que tu as fini les études, tu as tout brûlé le budget, tu n'as plus d'argent pour faire le projet.
C'est
l'histoire.
Ça peut être
malheureusement,
une possibilité.
Malheureusement, j'ai rien à dire là-dessus. Parce que c'est ça s'est déjà vu dans le passé.
Ou que l'étude est rendue, tu sais, ça fait 10 ans qu'on étudie, fait que Et puis bonne pour recommencer, tu sais, des fois.
Ce que tu dis finalement aux gens, parce que c'est sûr que les gens doivent t'en parler ou doivent t'envoyer des courriels, puis il y a vraiment des gens qui sont inquiets, puis on peut les comprendre.
Absolument, on peut les comprendre.
C'est respirer, il y aura un plan qui sera dévoilé, mettons, avec un corridor plus précis, puis quand on aura cette information-là, ben on agira en conséquence.
Exactement, puis il faut se dire que, tu sais, il y a beaucoup d'eau qui peut couler autour du pont d'ici ce temps-là. Puis, je veux dire, on le sait que, tu sais, présentement, les investissements qui parlent au fédéral, là, si on vient à bout de tout bâtir ces choses-là, je veux dire, il y a beaucoup d'argent qui va se dépenser, puis...
On a les moyens, nos ambitions.
Exactement, exactement.
Effectivement. Ah, voilà. Oh, on a juste à couper les transferts aux provinces, ça va bien
voilà,
aller.
Et voilà,
Stéphane Sarrazin, qui est député provincial, donc j'ai envoyé une petite joke de même. Hydro-Hawkesbury, c'est dans les nouvelles ce matin. Puis, en fait, le maire Lefebvre qui a juste voulu rassurer un peu les gens en disant, parce que c'est quelque chose que moi-même, je vois passer sur les réseaux sociaux depuis au moins 6 mois. Il doit y avoir une chose par semaine qui sort là-dessus. De gens qui se questionnent, à savoir, la ville, sont-tu réellement en train de vendre Hydro-Hawkesbury à quelqu'un? Ça pourrait être Hydro-Ottawa ou Hydro-Wanda, peu importe. T'en penses quoi de ça, toi?
Ben, moi, je vais te dire...
Maire d'Alfred et Alfred dans mon... Alfred, c'est Hydro 2000, non?
Oui, puis moi, t'expliquer un peu comment je suis rendu à m'intéresser à la politique municipale. J'étais directeur d'Hydro 2000. J'étais président de la corporation en 2014.
Oui.
Puis, à ce moment-là, c'est Jean-Yves Lalonde, qui était maire d'Alfred Plantagenet, qui m'avait demandé de siéger là-dessus. Donc, j'étais président de la corporation. Puis, pas longtemps après, il y a un nouveau maire qui est rentré en poste. Puis lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est faire des profits ou vendre Hydro pour justement avoir de l'argent avec ça. Puis moi, j'ai dit aux payeurs de taxes d'Alfred Plantagenet, comme là dans le cas-là d'Hawkesbury. Donc, qu'est-ce que ça devrait être l'Hydro-Hawkesbury? C'est avoir les meilleurs coûts possibles puis avoir les meilleurs services possibles. Parce que ça appartient déjà au... Tu sais, c'est comme... Ça appartient à la ville qui appartient aux payeurs de taxes. Moi, j'ai toujours cru qu'avoir notre propre Hydro, c'était la plus belle affaire. Puis écoute, je bats ça. Je me bats encore avec Hydro One puis avec le ministre de l'Énergie à dire... C'est les petites, on l'appelle les LDC, la Local Distribution Company. C'est un avantage pour nous parce que quoi... Ça fait partie du développement économique aussi, parce que si on prend une décision ici, à Hawkesbury, d'avoir les capacités, ben on n'a pas besoin d'attendre avec Hydro One que le head office, il est « cherche-moi où ce qui est », puis tu sais, comme après ça, parce que moi, je le vois en tant que député, quand on a des problèmes, on a des grosses, des projets de maison qui doivent être servis par Hydro One, puis c'est nous là, qui met de la pression sur Hydro One, ah ouais, le développeur a de la misère, pas capable d'avoir l'électricité à date, fait bouger, parce que c'est rendu tellement gros que, veut dire, ils sont à travers l'Ontario, tandis que quand tu as Hydro en actif d'Hydro en brun, ben ils sont capables bien de servir puis bien travailler avec les développeurs. Puis je me rappelle, avec des développeurs d'Hydro en brun, on est venu à bout de renverser des décisions. Il y avait la moitié d'un projet qui appartenait à Hydro One, puis l'autre moitié du projet qui appartenait à Hydro en brun. Puis on est venu à bout de dire à Hydro One, donnez cette section-là à Hydro en brun, ça va être mieux servi, puis les gens... Moi, j'ai tout le temps un atout d'avoir ça, notre Hydro. Puis écoute, je comprends là, que c'est alléchant. Je sais pas comment que ça peut être vendu. 6 millions, 8 millions, 10 millions, j'en ai aucune idée, 15 millions. Mais ça, là, ça va
c'est patcher
des rues pendant un an. Puis après ça, on va être à la merci d'Hydro One. Puis quand on a des grosses décisions à prendre, ben ça va être plus dur. Puis je me dis présentement, tu sais, je sais qu'on parle de ça. Puis la vente d'Hydro, faut que ça soit à huis clos. Qu'est-ce qui va être à huis clos? C'est les discussions à savoir comment que tu vas le vendre, le prix. Mais quand même, ça devrait être public de dire « Hey, on pense de vendre ça. »
Ou on pense pas aussi.
On va aller en appel d'offres. Ça, cette partie-là devrait être publique, à mon avis. Puis présentement, je veux parler que certains membres du conseil municipal, comme le maire, comme un exemple, a dit clairement, je pense, qu'il ne se représentait pas. Donc, pourquoi pas laisser ça au prochain conseil municipal?
Moi, je dis leur toujours... mandat, il leur reste à peu près 6 mois avant la prochaine élection.
Puis s'il y a 2-3 conseillers qui décident de pas se représenter, ils vont devenir ce qu'on appelle canard boiteux, là, décision. Donc, pourquoi pas laisser ça au prochain conseil municipal pour l'instant?
Est-ce que ça presse tant que ça, finalement?
Ben, en tout cas, moi, je pense que ça fait partie du développement économique de la ville d'Hawkesbury. Ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent parce que ça leur appartient. Donc, je pense que moi, j'ai tout le temps été pour ça, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a la même vision que moi. Moi, comme je te dis, j'ai été impliqué là-dedans. Les règlements, la réglementation est très lourde avec le Ontario Energy Board.
Oui.
Que ça coûte cher. Il y a des coûts de service qu'ils font à chaque 5 ans. Puis même, t'as des, comment t'es appelles, t'as des organisations qui viennent fighter contre les hausses de prix, doivent dépenser des 25-50 000 piastres d'avocat. Ouibi, ça favorise pas les petites compagnies de distribution, mais en même temps, on essaie de travailler avec le gouvernement de l'Ontario à dire hey, on pourrait pas comme couper le red tape puis faire ça plus facile pour ces petites entreprises-là.
Ça revient au point que la décentralisation puis être le plus proche possible.
Moi, j'ai jamais eu confiance en la décentralisation à avoir tout at large. Parce que,
la centralisation.
Excuse. Puis, non, mais tu sais, tu regardes un exemple, Enbridge.
Oui.
Tu sais, moi, je suis content, là, j'ai le gaz naturel, j'ai des bons prix. Mais en même temps, combien de fois qu'on a des développeurs qui viennent à nous et disent « Hey, là, Enbridge, ils vont pas emmener le gaz dans mon projet, je suis prêt à vendre les maisons, j'ai même pas le gaz encore. » Puis nous, on fight avec Enbridge parce qu'ils sont à la grandeur de l'Ontario. Puis, il veut dire, tu sais, c'est quel projet des distributeurs locaux, tu peux travailler avec ces gens-là.
C'est plus facile pour développer.
Coordonner les travaux
sur
le terrain.
C'est mon point de vue, c'est peut-être pas le mais c'est mon point de vue.
Mais j'aime l'idée de le laisser au prochain conseil.
Ben, c'est
parce que dans le fond... Je comprends le point aussi du fait qu'il va être dépensé dans le temps de le dire, puis que c'est quand même des répercussions qui, finalement, vont...
C'est une grosse répercussion.
Ben, c'est toujours... Une fois que c'est vendu, c'est fini.
C'est fini.
Fait que non, je comprends le point. Effectivement, c'est une grosse décision. Je veux parler dans un instant, OK, des... Je ne manquerai pas de temps. On va m'arranger.
OK.
Avec ces annonces de la semaine passée, OK. Après Gone, c'est David Guetta, Teddy Swims et Tones and I à GoFM.
Mathieu et Élise.
Ça part bien le matin.
92.1.
GoFM.
7h59. Bon début de journée, l'Est ontarien. Avec le député provincial Stéphane Sarrazin. Petite discussion qu'on a et on va terminer aujourd'hui avec parce que il y a eu une annonce la semaine dernière qui a été faite, annonce qui risque de toucher quand même quelques personnes concernant les droits de scolarité des collèges et depuis 2019-2020 où les frais de scolarité sont gelés dans les différents programmes collèges et tout ça. Et là, ça a été annoncé la semaine dernière, notamment qu'il y allait avoir des augmentations. Donc, le gel se termine avec des augmentations plafonnées à 2. Évidemment, puis il y a eu des changements aussi au niveau des prêts et bourses. Donc, il y aura plus de prêts que de bourses à partir de l'automne prochain. Donc, on comprend que des jeunes qui avaient peut-être un plan, la prévision financière ne sera pas la même nécessairement. Explique-nous un peu ces changements-là.
Bien, je pense que ces changements-là, premièrement, on parle de changements, mais il y a beaucoup de changements qui ont été faits. T'sais, si tu regardes aujourd'hui, le gouvernement offre aux médecins de payer leurs études, offre aux infirmières de payer leurs études, offre à certains éducateurs de payer leurs études. Fait qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Là, puis dans l'annonce qu'on a eue la semaine passée, on parle de 2 milliards par année. Là, 2 milliards, là, c'est 2 fois 1 000 millions. Par année d'investir dans les instituts postsecondaires en Ontario. Donc, c'est beau de dire OK, on les alloue de monter ça de 2 % les tuition fees. Puis qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que l'opposition en chambre était après nous autres à dire hey, aidez les
collèges,
instituts postsecondaires, ouais. Laissez-les monter les frais de tuition fees. Puis là, on le fait. Puis là, ils sont là. Ah, oh, le gouvernement Ford, il les laisse. Il monte les tuition fees. Ça fait 4 ans que vous êtes après nous autres dire donner l'option au collège de charger plus. Puis là, vous nous dites que ça fait plus d'allure. Puis juste pour dire quelque chose qui est tellement drôle, là, Mathieu, c'est quand on a fait l'annonce, OK, avec le ministre Quinn, qui est le ministre ici de SDG, qui est ministre des collèges et universités, il y avait l'Association des collèges de l'Ontario et l'Association des universités de l'Ontario qui étaient présents, qui voyaient ça à bras ouverts arriver, cette nouvelle-là. Puis là, d'un autre côté, t'as les syndicats, qu'eux autres, ils disent « ça n'a pas d'allure », puis t'as la Chambre de commerce qui dit « waouh, c'est la plus belle affaire qui arrive ». Fait que là, tu te dis « OK, est-ce que les syndicats d'enseignants font rien que chialer pour chialer ou est-ce que vraiment... » Parce que quand tu as plein d'autres organisations qui qui approuve le 2 milliards d'augmentation d'investissement par année, je veux dire, c'est pas rien, là. Tu sais, puis justement, je ris de ça parce que j'écoute souvent votre station de radio, puis j'entends là, la grand-mère qui dit, quand elle appelle les parents, puis elle dit, le problème, c'est Doug Ford. Oui. Je trouve ça tellement drôle parce que le problème, c'est pas que les administrateurs des conseils scolaires se sont votés 50 000 $ par année sur 2 ans d'augmentation. Non, c'est Doug Ford, tu sais. Je trouve ça un peu hypocrite, puis les syndicats, je pense que tu pourrais nous en parler, tu as sûrement fait plus de recherches que moi là-dessus, mais qu'est-ce qui appartiennent les syndicats des enseignants, là, des ports dans Bell Canada? C'est à peu près un des syndicats les plus riches au monde.
Un fonds de pension, oui.
Des fonds de pension, ouais. Puis tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment encore là pour les professeurs ou sont là pour générer des profits? Tu sais, c'est la question qu'il faut se poser, puis combien d'argent qu'ils mettent dans ces annonces-là, que le problème est Doug Ford, puis ils disent qu'il manque de l'argent dans les classes, mais peut-être toute cette publicité-là que vous faites, si vous la remettiez dans les classes, peut-être qu'on aurait un peu des meilleurs services pour nos élèves. Écoute, faut que je le dise, ça a sorti, puis écoute, je veux juste mettre au clair que c'est pas tous les conseils scolaires, parce qu'on a entendu parler récemment, tu sais, qu'il y a des conseils scolaires qui se sont vraiment fait le gouvernement take over, comme là,
les amis en tutelle, c'est ça, j'allais dire quarantaine, mais c'était tutelle, puis, le bon mot, oui.
Tu sais, ce matin, je parle de ça, mais je veux juste mettre au clair que c'est pas nos conseils scolaires régionales qui sont là dans le, qu'est-ce qu'on appelle, dans le hot seat, là. C'est des conseils de la ville, puis Peel, puis tout ça, puis d'Ottawa, parce que justement, ils savaient voter des augmentations, les conseils scolaires avaient coûté 4 millions par année, donc je pense que c'est quelque chose que, je pense que c'était le temps, puis honnêtement, je trouve ça très drôle parce que j'ai rencontré une dame récemment qui travaille pour un député, qui vient de commencer pour travailler un député dans le bout de... J'essaie de me rappeler la circonscription, le Dresden, puis tout ça. Puis elle me dit, ah, moi, j'étais conseillère scolaire. J'ai dit, t'étais conseillère scolaire? Puis vraiment, tu t'en vas travailler pour un député? Parce qu'en vous entendre parler, tu sais, les conseils scolaires, je veux dire, le gouvernement...
Ford et...
Ouais. Mais elle dit, c'est moi qui ai envoyé une lettre au ministère de l'Éducation en disant qu'il y a quelque chose à faire parce que ça n'a plus d'allure avec les conseils scolaires, qu'est-ce qui se passe là.
Puis, elle a elle-même demandé de l'aide à la province.
Exactement. Donc, okay. Tu sais, ça te fait réfléchir, puis tu te dis, j'espère que chez nous, on ne sera pas dans cette situation-là, mais je pense qu'en connaissant les gens qui siègent sur les conseils scolaires ici dans la région, j'ai confiance, mais tu sais, certainement que dans d'autres endroits, on a entendu des histoires là, dans la région, ouais, de Muskoka, qui ont bâti une école et sont obligés de la redétruire par après parce que ça a été donné un contracteur.
Cette histoire aussi, c'est dans quel coin, là, mais c'est dans le GTA, mais cette histoire de voyage en Italie pour acheter des œuvres d'art pour une école secondaire, là.
Ça incroyable. Bon, incroyable.
D'envoyer 6 membres du conseil scolaire. Mais est-ce que finalement, malheureusement pour nous, on fait pas... Il y a des décisions qui sont prises à notre dépens parce qu'il y a des inconduites qui ont eu lieu dans le Grand Toronto?
Absolument. On est toujours victime de ce qui se passe dans la grande ville. Puis tu sais, je pense que qu'est-ce que le gouvernement Ford veut faire? Veut que vraiment... toutes les organisations deviennent plus efficaces. Puis il y a toujours de la place à efficacité. Moi, je me rappelle, quand j'ai rentré maire d'Alfred Plantagenet, on s'est mis à regarder les dépenses, puis on a trouvé des endroits pour sauver de l'argent. Puis il y a toujours, puis tu sais, toi, c'est toi qui runs un peu ici les stations de radio, il y a toujours des endroits où on peut sauver de l'argent. C'est comme toi, tu pourrais donner une réduction de salaire à Élise.
C'est exactement ce que je pensais faire. Merci de la suggestion.
Non, mais tu sais... Je pense que c'est d'avoir une meilleure efficacité. Puis on le voit pas juste dans les conseils scolaires. Le gouvernement de l'Ontario regarde à toutes les organisations des fournisseurs de services, les hôpitaux, à dire « Hey, soyons donc plus vigilants quand ça vient à dépenser l'argent. » Rien de plus facile que dépenser l'argent des autres.
Ça, j'aime dépenser.
Ça fait une bonne conclusion de l'entretien ce matin. Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry, Prescott et Russell, gros merci pour ton temps ce matin. On s'en reparle bientôt.
Ça fait plaisir.
Fais juste un rappel, tu retournes à Queen's Park quand?
Je pense que c'est le 23 mars. Mais tu sais, les gens me disent, ah, t'es pas à Toronto, mais je pense que je retourne la semaine prochaine, puis on a des comités, puis on a plein de choses. Donc,
mais la Chambre resiège, ouais, officiellement.
Exactement. Le 23 mars.
Ben, merci beaucoup.
Fait plaisir.